bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Je te remercie pour cette assemblée, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as élevé cette assemblée pour qu'elle puisse avoir un impact dans cette nation, là où elle est, Seigneur. Merci, mon Père, parce que tu es un Dieu qui veut que nous changions les circonstances. Tu veux que ton royaume passe par ton peuple. C'est pourquoi je prie encore ce matin pour ce peuple, pour que tu l'aides à comprendre les réalités de ton royaume. Merci pour ta puissance, la puissance de ta parole qui nous change. Cette puissance extraordinaire, Seigneur, que tu as mise à notre disposition. Et Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons, Seigneur, faire avancer ton royaume. Tu nous en as donné les clés. Et je prie pour que chaque personne ici puisse ouvrir son cœur et marcher dans les lois spirituelles, afin que tu sois glorifié au travers de ton Église. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Alléluia. Je suis très heureux encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Qui était là au premier culte? D'accord, donc vous n'êtes pas très nombreux, très bien. Comme ça, parce qu'on m'a demandé de partager sur un autre thème, donc je vais en profiter aussi pour partager sur un autre thème. Mais le pasteur Fofi m'a demandé aussi de pouvoir faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc je vais en profiter. Alors je vais faire ce résumé, puis après nous partagerons quelque chose de particulier sur la parole à propos de la volonté de Dieu et de notre destinée. Alors, nous avons donc partagé pendant toute cette semaine, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enseignements, parce que le Seigneur m'a vraiment montré un certain nombre de choses à propos de tout ce qui était prospérité, parce que vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont dits, beaucoup de trucs qui sont faits, et puis finalement, les gens sont souvent troublés, ou alors on a des aspects d'une vérité où les gens poussent et font n'importe quoi. On a souvent entendu dans les milieux, si vous avez été éduqué dans les milieux protestants, évangéliques, je dirais classiques, on vous a souvent éduqué en vous disant que pauvreté est égale humilité. Hein, ça, c'était le truc classique. Et puis, d'un autre côté, on a vu aussi des gens qui commençaient à vouloir manipuler, qui ont manipulé beaucoup les émotions des chrétiens pour qu'ils puissent donner, pour qu'ils puissent libérer des finances avec des méthodes qui sont plus que discutables. Et malheureusement, avec ces deux travers, nous avons des gens qui ont discrédité le merveilleux message que Dieu nous donne à propos de la prospérité. Et je vous rappelle que la prospérité, si vous avez, qui a suivi quand même le séminaire dans la semaine parmi vous là? Ok, donc un certain nombre d'entre vous. Tu peux faire un mauvais voyage ou tu peux faire un très bon voyage. Et c'est exactement ce que le mot prospérité veut dire. Prospérer veut dire faire un excellent voyage. Littéralement, dans le grec, c'est ce que ça veut dire. Faire un excellent voyage dans cette vie. Et il y a des piliers, justement, pour notre prospérité. Je ne suis pas du genre à enseigner quelque chose en disant aux chrétiens, venez, on va prier, vous allez faire ça, et d'un seul coup, tout va changer. Non. Ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, Dieu veut qu'il y ait un certain nombre de choses, de fondations que nous posions dans nos vies. Et souvent, ça demande du temps, parce que nous avons été formés par le monde. Quand tu sors du monde, c'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu sors du royaume des ténèbres, mais tu as été souvent formé par le royaume des ténèbres, malheureusement, dans tes mentalités, dans ton langage, dans tes comportements. Et quand tu nais de nouveau, ton esprit naît de nouveau. Il y a un miracle instantané qui se passe, mais dans ta tête, c'est pas né de nouveau. Tu as encore les vieilles mentalités, les mentalités du monde, par exemple par rapport à l'argent, par rapport à la sexualité, par rapport aux relations en général, par rapport à toutes sortes de choses. Nous avons les mentalités du monde. Et d'un seul coup, nous recevons le Seigneur, et là, notre esprit est né de nouveau, Mais nos mentalités ne sont pas nées de nouveau. Nos mentalités sont encore des charnelles. Elles ont été forgées par le monde. Et avec l'argent, c'est ce qui se passe très souvent. Alors, on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu veut un certain nombre de choses dans nos vies. Pourquoi il veut révolutionner nos vies et nous amener dans la prospérité. La prospérité n'est pas seulement financière. J'ai vraiment enseigné cela parce que je tiens à faire ce résumé pour vous aider à comprendre certaines choses. En fait, la vraie prospérité, c'est une mentalité. Une mentalité qui nous amène aussi à parler un autre langage et à changer nos comportements. Et cette vraie prospérité, ce n'est pas seulement les finances. La vraie prospérité d'un être humain, bien sûr, c'est de trouver Jésus, ça c'est clair au départ, ça, Jésus est la fondation, mais en fait, ce qui va se passer après, c'est que cette vraie prospérité, d'abord, c'est prospérer dans ta relation avec Dieu, dans la connaissance intime de Dieu. Ensuite, c'est prospérer aussi dans tes relations avec les autres. Parce que vous savez, vous ne pourrez jamais prospérer financièrement si de toute façon vous n'avez pas de bonnes relations, que vous ne savez pas y faire avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui se plantent parce qu'ils cherchent une prospérité financière de la mauvaise façon. D'abord, on ne cherche pas la prospérité financière, on ne cherche pas la bénédiction financière. Chaque chrétien qui cherche, et je n'aime pas les enseignements où on dit aux gens « vous avouerez la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction ». Non, la bénédiction doit être un fruit d'une relation avec Dieu. Sinon, on pervertit le message de l'évangile. Par exemple, si tu cherches la guérison, tu as tort. Cherche Christ, qui est la source de la guérison. Et le fruit sera ta guérison. Voilà. Ne cherche pas l'argent. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Cherche les lois du royaume de Dieu. Cherche la mentalité de Dieu. Cherche la pensée de Dieu sur les finances. Et une des conséquences, un des fruits, ça va être de ta prospérité financière. Vous voyez, les gens inversent les lois spirituelles et ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi leur vie n'est pas transformée. Mais c'est normal, tu mets les choses à l'envers. Tu mets les choses à l'envers. Si tu veux voir quelque chose tomber sur le sol, tu ne vas pas l'envoyer en l'air. Si tu l'envoies en l'air, tu t'opposes à la pesanteur. Voilà, donc si tu t'opposes à une loi, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas te casser le nez, tu vas toujours aller à l'encontre, tu vas à contre-courant. Il est plus facile de nager dans le courant d'une rivière plutôt que d'essayer de la remonter. Et beaucoup de gens essayent de remonter en disant « Non, je veux faire comme ça, c'est comme ça que je pense. » Et ils ont tort. Non, apprenez à couler dans le flot de Dieu. C'est tellement plus facile. Donc la vraie prospérité est basée sur 5 piliers. La connaissance d'abord de la parole, la foi, la loi de la semence et de la récolte, l'excellence au travail, nous en avons parlé, et la gestion de nos finances, c'est-à-dire les priorités et nos investissements. Parce qu'il faut faire extrêmement attention, parce que souvent, on a des gens. Vous savez, les chrétiens ont du mal à associer. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, pasteur Fofi, et il faut vraiment aider nos chrétiens avec ça. C'est en fait, les gens ont du mal à associer le spirituel avec le naturel. Ils sont souvent bloqués. Ils vont beaucoup prier par rapport à quelque chose, mais ils ne vont pas voir le résultat parce qu'ils ne savent pas mettre en application dans le domaine du naturel. On voit très très souvent, c'est très courant de voir ce genre de choses-là. Les gens prient, les gens reçoivent des choses du Seigneur. Je vais vous donner un excellent exemple qui va beaucoup vous aider. Moi, ça m'a parlé, c'était grave cet exemple. C'est l'exemple de Joseph. Souvent, on va voir l'exemple de Joseph. Joseph va donner la révélation à Pharaon. En disant, voilà, les 7 vaches maigres que tu as vues, c'est ça, les 7 épis maigres, après les 7, etc. Mais Joseph s'en est pas arrêté là, frères et sœurs. Il a donné une solution pratique à la nation la plus puissante du monde. Et ça, c'est ce qui manque chez beaucoup de chrétiens. Très souvent, les chrétiens voient au niveau des choses spirituelles, le Seigneur leur parle, mais ils n'arrivent pas à amener ce qu'ils ont vu à la réalité. Et pourtant, c'est la foi. C'est une des définitions de la foi, ça. Et c'est pareil, nous les serviteurs de Dieu aussi, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu bloqués. Quand vous demandez à la plupart des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au départ quand tu as fondé l'Église ? Ah, vous allez entendre des choses incroyables et vraies, confirmées. Mais souvent, le serviteur de Dieu va être bloqué parce qu'il n'arrive pas à connecter le surnaturel avec le naturel. Et ça, c'est un problème qu'on voit beaucoup. Et les chrétiens sont souvent comme ça. Ils ont ce problème-là. Ils ont le côté surnaturel. On leur parle de la foi, on leur parle de la prière. Ils sont vraiment braves, honnêtes. Hein. Beaucoup de chrétiens sont bien, sont de bonnes personnes. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à connecter le surnaturel avec le naturel. Par exemple, dans les finances, ils ont du mal à connecter le surnaturel avec le naturel. Le surnaturel, il y a la partie de la foi, il y a la partie de savoir donner au Seigneur, etc., etc. Et ils n'arrivent pas d'une façon pratique, ils se retrouvent dans des situations où ils font des bêtises. Des bêtises qui font qu'ils perdent de l'argent, beaucoup d'argent, qui managent mal leurs finances, qui se retrouvent dans des dettes inconsidérées, qui mettent par exemple tous leurs investissements dans un seul panier, tous les œufs dans le même panier, et qui se retrouvent bloqués, vous voyez. Et c'est dommage, parce qu'on fait souvent, je les ai faites, hein, je me mets dans l'eau aussi, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai appris, parce que je me suis aperçu que très souvent, nous générons nos problèmes. 90% de vos problèmes sont générés par vous-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. 90% de nos problèmes sont générés par nous-mêmes. Donc, si tu changes, la plupart du temps, tu ne tomberas pas dans certains problèmes. Ce qui te permettra d'avancer beaucoup plus vite. Parce que quand tu as constamment des problèmes que tu génères toi-même, après, il faut sortir du trou. Si tu as fait un mauvais investissement alors que tu avais mis 5 ans à mettre un capital de côté, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir du mal à sortir du trou. Et puis tes 5 ans, tu vas avoir, comme on dit en français, les boules. Je sais pas si vous dites ça ici. Mais en tout cas, tu vas dire quand même, je comprends pas, j'ai prié, etc. etc. Oui, tu as prié, mais tu n'as pas agi de la bonne façon. Tu as mal agi dans le sens, tu n'as pas agi de la bonne manière. Et paf, tu perds ton investissement alors que tu as mis 5 ans à capitaliser pour avoir ton investissement. Et souvent, on se fait avoir comme ça. On a des trous comme ça dans notre caractère qui font que on se retrouve bêtement, souvent dans des situations où on est bloqué. Et après, il faut que le pasteur prie. Parce que quand on a des ennuis, on vient voir qui? Pasteur Foufi. Vous savez l'adresse. Vous voyez? Et c'est dommage. Parce que souvent, on est freiné dans notre destinée à cause de ça. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Donc c'est pour ça que nous devons devenir intelligents. Dieu est supra-intelligent. Dieu a créé la terre et les cieux par quoi? Son intelligence, disait l'Écriture. Dieu a créé les cieux et la terre par son intelligence. Donc il veut nous transmettre des choses. Dieu veut que nous ayons cette sagesse. Je vous rappelle que vous ne devez pas chercher l'argent, mais vous devez chercher, comme dit Proverbe 16, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ensuite, nous avons vu que Dieu est propriétaire de la terre, mais que Satan est le gestionnaire, qu'il a reçu cette gestion à partir d'Adam et Ève, bien sûr. Quand ils ont péché, il leur a légué, Adam et Ève ont légué le contrat qu'ils avaient, l'alliance qu'ils avaient acquis au diable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un chaos. C'est un chaos total. La terre est un chaos, parce que la gestion de la terre est faite par le pire des gestionnaires. Dieu avait tout mis pour que ça marche parfaitement, mais comme Adam et Ève ont chuté, ils ont légué la gestion de la terre. Et toi, c'est pareil. Tu n'es pas propriétaire de ta vie, tu es gestionnaire de ta vie. Et il va falloir que tu apprennes à gérer ta vie correctement. Donc tu es responsable de la gestion de ta vie. Arrête de dire c'est de la faute des autres, arrête de dire c'est de la faute des circonstances, arrête de dire c'est de la faute du diable. Non, regarde-toi en face et apprends à gérer correctement ta vie. Dieu nous donne des principes dans son royaume où nous pouvons pleinement prospérer, c'est-à-dire nous épanouir à tous égards afin de devenir une source de bénédiction. Tu ne pourras jamais être une source de bénédiction si toi-même tu n'es pas béni. C'est clair. Si tu es mal en point spirituellement, comment tu seras une source de bénédiction? C'est pas possible. Un malade ne peut pas aider un malade. Si vous voyez dans un hôpital quelqu'un qui est alité, donc sur un lit, qui est à moitié mort, il peut pas aider son voisin qui est juste à côté de lui à moitié mort. Ce sont les gens qui sont en bonne santé qui aident les autres. Donc il faut que nous puissions être en excellente santé dans tous les domaines, que ce soit dans notre relation avec Dieu, que ce soit dans notre épanouissement personnel, dans notre personnalité, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre santé. C'est ça la vraie prospérité. C'est en fait le royaume de Dieu qui agit tellement que nous attirons la faveur de Dieu. Et au travers de cela, nous attirons la faveur des hommes. Vous voyez ? Donc on voit des tas de choses se produire à ce moment-là, surnaturellement dans nos vies. Nous avons des connexions divines. D'un seul coup, il y a des provisions divines, etc., etc. Toutes sortes de choses qui sont créées autour de nous parce que c'est nous-mêmes qui comprenons comment mettre en action les lois du royaume de Dieu pour la gloire de Christ. Tellement de chrétiens restent avec tous leurs problèmes pendant des années et des années parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Moi, c'est des choses que j'ai comprises vraiment extrêmement récemment et ça m'a coûté cher de ne pas pouvoir les comprendre plus tôt. Je me suis retrouvé dans des situations franchement extrêmement catastrophiques dans pas mal de domaines de ma vie et je ne comprenais pas pourquoi et je n'avais pas compris certaines choses du royaume de Dieu dans ces différents domaines. Et j'ai commencé à tourner en rond. Par contre, j'ai prié, j'ai vraiment cherché la face de Dieu. Et Dieu a commencé à me montrer. J'avais un bon message sur la foi, j'avais un mon message en général sur la prière, etc., etc. Mais il y avait des choses dans lesquelles je n'arrivais pas à avancer. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je priais Dieu, j'étais sincère dans ma relation avec Dieu, mais j'étais bloqué quelque part. Et Dieu a commencé à me parler qu'en fait, nous sommes des aimants. Nous sommes des aimants. Des aimants à bénédiction, des aimants à problème. Ce qui t'arrive, ce n'est pas hasardeux. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. C'est parce qu'il y a des choses que tu as mises en place dans ta vie qui peuvent être divines ou au contraire qui peuvent être charnelles, qui vont faire qu'il y a certaines choses qui vont se produire. Maintenant, c'est vrai que le diable peut nous attaquer, mais le diable n'est pas 24 heures sur 24 sur ton dos, mon frère, ma sœur. Parce que ça, si tu le crois, tu as tort. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable est en un seul point seulement sur la terre et en plus, tu as autorité contre lui. Donc, s'il te fait un sale coup, tu peux le bloquer quelque part. Ça, c'est clair. Maintenant, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations où nous créons l'atmosphère dans laquelle finalement, la chair et l'ennemi peuvent s'introduire. Par contre, si tu sais bloquer ces choses, tu attires au contraire le royaume de Dieu et la faveur du royaume de Dieu. Et c'est là où tu vois des choses se produire. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles je prie peu, mais je les vois s'accomplir. Par exemple, on a acquis ce bâtiment dont j'ai parlé, là, qui va faire 2500 places. On est en train de le terminer à l'intérieur. J'ai dormi toutes les nuits. Je n'ai fait aucun jeûne et prière par rapport à ça. Aucun jeûne et prière. J'ai simplement déclaré la parole de Dieu et mis les mécanismes divins pour que nous puissions accéder à la propriété. Et c'est très simple à faire. Quand on comprend ça, c'est beaucoup mieux. Tu n'utilises pas une sorte d'énergie spirituelle que tu essayes d'ailleurs de créer très souvent à te forcer ou essayer de forcer la main de Dieu. Parce que la prière n'est pas forcer la main de Dieu. Je termine rapidement sur la prospérité parce que je vais vous parler de la prière dans quelques minutes. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que nous devons apprendre à parler la parole. Nous l'avons vu, nous devons être aussi des producteurs, nous sommes des arbres, nous devons produire. Je passe brièvement parce que j'ai fait tellement de choses sur ce sujet que je peux pas. Je fais là un simple résumé. Et nous avons vu qu'il faut parler la parole. Ça, c'est la foi. Si tu parles la pauvreté, si tu parles le manque, si tu parles des problèmes financiers, eh bien tu récolteras ces choses-là. Rappelle-toi que la dimension dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as parlé hier. Parce que la Bible nous dit clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc si tu aimes parler sur tes situations en parlant que tu as des problèmes, tu parles de tes montagnes constamment, tu es en train de dire, voilà, j'ai tel problème, j'ai telle dette, j'ai ceci, j'arrive pas à trouver de boulot, j'ai des problèmes de ceci, ma famille n'arrête pas de me demander de l'argent, gnagnagnagna. Si tu continues à faire ça, tu es en train de prophétiser ta dimension de demain. Aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as prophétisé hier, en parlant. Donc plus tu parles négativement, plus tu parles contre le royaume de Dieu dans ta vie, ce qui est étonnant, c'est que tu es dans le royaume de Dieu, tu es né dans le royaume de Dieu. Si tu parles des choses contraires dans ta vie, qui sont contraires au royaume de Dieu, ben, tu vas bloquer l'action du royaume de Dieu dans ta vie. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on voit plein de chrétiens qui ont vraiment des dons, qui sont des gens honnêtes, qui vraiment auraient tout pour avoir une vie exceptionnelle, surnaturelle, pour la gloire de Dieu, et qui bloquent quasiment tout, parce qu'avec leur langue, ils bloquent le royaume de Dieu dans leur vie, l'influence du royaume de Dieu dans leur vie. Alors, nous avons vu ça, nous avons vu aussi la semence. On en a parlé hier soir et j'ai fait un enseignement sur comment semer. Qu'est-ce que ça veut dire de semer nos finances? Pourquoi semer nos finances? Qu'est-ce que Dieu nous promet par rapport à nos finances? Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, semence et récolte, mais aussi ce que nous mettons à notre compte céleste, ce que nous mettons pour l'éternité. Parce qu'un jour, nous allons passer devant le tribunal de Christ. Quand il y aura la tribulation sur cette terre, nous serons là-haut avec le Seigneur. Et nous serons dans nos corps qui seront ressuscités et ou transformés. Et Dieu, après, va nous donner nos récompenses. C'est là où ton corps sera glorifié. Il y a une différence entre le corps ressuscité et le corps glorifié. Là où Dieu te donnera de la gloire. Aujourd'hui, tu ne peux pas supporter la gloire parce que Dieu ne partagera pas sa gloire avec toi aujourd'hui. Par contre, quand tu seras dans l'éternité, quand tu seras dans le ciel, avec ton corps ressuscité, Dieu partagera sa gloire avec toi. Lisez bien l'Écriture, ça fait partie des enseignements de la fin des temps. Alors, ensuite, nous avons vu l'honneur au travail, l'excellence au travail, être diligent. Parce qu'il y a des gens qui veulent prospérer sans travailler. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a des prédicateurs qui ont insisté, donnez, et clac, on va prier pour vous, et il va y avoir des miracles. Je suis désolé. La semence est un des piliers de la prospérité, mais tu dois aussi avoir de l'excellence au travail. Et très souvent, les chrétiens, ils sont dans des boulots, au début, tu commences dans la vie, tu commences avec pas grand-chose, c'est normal. On ne va pas te placer comme grand directeur alors que tu viens à peine de finir l'université ou que tu n'as pas de diplôme. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Par contre, tu peux faire comme Joseph, qui était vendu comme esclave et qui avait une mentalité d'excellence. Et Dieu lui a donné la promotion. Dieu te donnera toujours la promotion si tu as une mentalité d'excellence. Joseph, il nettoyait par terre. C'était le fils d'un prince. Mais il n'a pas été devant Potiphar en disant, moi Potiphar, tu ne sais pas qui je suis, hein, Vous savez, comme certains chrétiens là, tu ne sais pas qui je suis moi. Oui, d'accord, montre qui tu es réellement par tes actions. Plutôt que de dire, moi je suis ceci, moi je suis cela. C'est bien beau de dire, moi je suis ceci. Il y a certains enseignements, vous savez, qui commencent à courir comme ça, à droite, à gauche, où on essaye d'élever l'homme. Tu seras grand. Dieu veut que tu sois grand. Désolé, c'est vrai, mais il y a le chemin de la grandeur selon Dieu. Et ça, on oublie souvent ces parties de message. Parce que ça commence à flatter l'ego de certaines personnes. Et c'est en train de détruire une partie du corps de Christ, ce genre d'enseignement. Parce que ça, c'est des enseignements qui sont tordus. Il y a une vérité, mais on l'a poussée vers un fossé. Et on amène des gens vers les fossés, vous voyez. Il faut faire attention. La grandeur de Dieu, c'est d'abord qui tu es, réellement comment tu te comportes selon la mentalité de Dieu. Donc tu acquiers la mentalité de Dieu et Dieu à ce moment-là peut te mettre dans une promotion. Donc la valeur au travail. On a vu que les paresseux ne peuvent pas prospérer, c'est pas possible. Dieu ne peut pas bénir des gens qui sont paresseux. C'est pas possible. La Bible est claire. Le paresseux, il va vivre la disette et c'est normal. Celui qui travaille diligemment, c'est-à-dire régulièrement, d'une manière excellente. Il va voir les fruits de son travail. Rappelez-vous que Dieu dit dans Deutéronome 28, je crois que c'est au verset 15, que Dieu bénit le travail de nos mains. À partir du moment où tu ne mets pas ta main quelque part et que ta main n'est pas excellente, et fais attention au standard que tu mets sur le mot excellence. Parce qu'il y a des gens à qui vous donnez... il y a des gens qui font un travail et ils vous disent j'ai fait un très bon travail, et tu dis non, tu n'as pas fait un bon travail. Ils ne comprennent pas. Ils ont un standard du bon travail, eux, en faisant finalement un travail négligé. Et ça, ce n'est pas biblique. Quand on regarde, que ce soit Daniel qui était dans un environnement hostile, Daniel était dans un environnement tellement hostile qu'il y avait des esprits sataniques partout. Ils adoraient des idoles. Ils faisaient n'importe quoi. Nabuchodonosor et sa cour, c'était l'horreur totale. Ils faisaient n'importe quoi. Il était dans un environnement de sorcier, Daniel. Mais il a su avoir un esprit supérieur, nous dit la Bible, c'est-à-dire un esprit d'excellence. Et c'est pour ça que Dieu l'a béni et Dieu l'a protégé. Et souvent, les chrétiens, ils disent, mais non, moi j'ai un petit boulot qui vaut rien, qui est mal payé, donc de toute façon, je vais le négliger. Tu négliges ça, tu n'auras jamais de promotion. Tu te retrouveras toujours dans les mêmes problèmes. Commence là où tu es. Et tout ce que tu touches, ça doit respirer l'excellence. Si tu fais ça, je t'assure, tu seras vraiment béni. Dieu va commencer à voir ton cœur et va utiliser tes mains. Si tu ne fais pas ça, je le vois moi dans les églises, des gens, ils sont pas, on leur donne une responsabilité qui est très très limitée, et ils ne sont pas contents contre le pasteur. Ils veulent être chef, responsable, moi. Et le pasteur dit non, tu seras là, tu vas juste t'occuper à faire quelques petits trucs à l'entrée. Oui, mais moi je veux, moi je prêche un pasteur, j'ai un appel, hein, il faut que je prêche un pasteur, moi. Et le pasteur dit ah. Et là les gens commencent à s'aigrir. Mais la Bible même, vous voyez, il y a même un principe dans l'église de Dieu. La Bible nous dit d'éprouver ceux qui vont servir. Qu'on ne met pas n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il a une jolie tête ou qu'il a un gros chèque qui va amener à l'église. Ça, c'est des pasteurs qui se font acheter et qui seront en otage après. Et ça ne marche pas comme ça dans l'église de Dieu. Nous devons respecter les lois divines. Dieu donne de la promotion à ceux qui sont fidèles et diligents dans leur travail. Si tu fais ça, tu seras béni quelque part. Ensuite, nous avons vu, et je terminerai par ça, la gestion. Il y a des gros problèmes de gestion très souvent chez les chrétiens. Les chrétiens, c'est pas le salaire que vous gagnez qui est important. C'est pas ça. C'est le différentiel entre vos ressources et vos dépenses. C'est ça. C'est en fait ce que vous arrivez à mettre de côté tous les mois. C'est ça votre prospérité. Si tu arrives à mettre 5 000 $ tous les mois de côté, c'est-à-dire que c'est ton potentiel de cash tous les mois, ça veut dire que tu commences à être prospère quelque part, réellement. Si par contre, tu gagnes 5 000 $ ou même 10 000 $ et que tu sors plus que ce que tu gagnes, même à quelques centaines de dollars près, tu n'es pas prospère. Ça veut dire que tu as plus de sorties que ce que tu entres. Et là, tu as des ennuis. Là, tu es en train de couler, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas le montant de ton salaire. Souvent, les gens disent « Ah, il est prospère parce qu'il a un gros salaire. » Oui, mais ça dépend. S'il a autant de dettes derrière lui ou qu'il est en train d'éponger sa vie passée, ça veut dire qu'il n'est pas prospère. Ça veut dire qu'il est en train de manger tout ce qui rentre. Voyez, et très souvent, les gens sont comme ça. Non, c'est pas ça la vraie prospérité. La vraie prospérité, en tout cas, c'est le potentiel que tu as de finances qui te reste régulièrement, tous les mois ou tous les 15 jours. Ici, je crois que c'est tous les 15 jours que vous êtes payé, c'est ça. En fait, tout ce que tu récupères, que tu n'auras pas dépensé et que tu es capable, qui est une semence pour investir ensuite. Ensuite, je vous ai expliqué quelque chose d'important. C'est de faire, si vous avez du mal avec vos finances, les sorties, que vous ne les contrôlez pas, il faut que pendant 3 mois, vous notiez. Vous vivez normalement et pendant 3 mois, vous notez tout ce que vous dépensez. Et là, vous allez commencer à fermer le cercle de vos dépenses. C'est-à-dire, vous allez savoir exactement ce qui va sortir. Ça va vous permettre aussi de classifier vos dépenses. Et ces dépenses, ça va vous permettre aussi de faire un budget. Parce qu'on a besoin de fonctionner avec un budget. Nous sommes des êtres humains. Et il y a des choses pratiques dans la vie des chrétiens qui ne leur sont jamais enseignées. Moi, mes parents ne m'ont jamais enseigné à faire un budget. Et ça a été vraiment, des trucs et des machins. Tout sortait, on n'avait aucun contrôle sur les sorties. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons faire des budgets. Parce que Dieu nous veut qu'on prospère, mais il veut aussi qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Parce qu'il y a des choses qu'on achète qui sont absolument indispensables. Il y a des choses qui sont nécessaires, mais il y a aussi des choses qu'on aime acheter. Et vous êtes dans des sociétés de consommation où si vous ouvrez la télé, pendant le film, vous allez avoir 10 pubs qui vont vous dire d'acheter le dernier iPad, le dernier iPhone, le dernier je ne sais quoi. L'important, c'est de dépenser. Et on vous donnera tous les bons moyens pour que vous puissiez payer comme si vous ne sortez pas d'argent. C'est pas grave, c'est 100$ par mois. Oui, d'accord. Mais juste avant, tu as acheté un truc à 200$ par mois pendant 3 ans. Et juste encore avant, tu as acheté ta maison qui va être 2500$ par mois. Et juste avant, tu as acheté ta bagnole. Et finalement, tu te retrouves écroulé dans des dettes sans budget. Et ça, c'est mauvais. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de dettes et de pauvreté à cause de cela. Parce qu'ils ne maîtrisent aucun budget. Et vous devez apprendre à faire des budgets. Vous ne pouvez pas prospérer sans faire des budgets. Dans une église, on doit faire des budgets aussi. On doit dire, cette année, on va dépenser à peu près autant. Bien sûr, quand les choses rentrent plus et on sait qu'il y a des besoins, on fonce dans la vision. Ça, c'est clair. C'est tout l'art, d'ailleurs, des finances et du ministère. Alors, nous avons remarqué que... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on a parlé de l'avidité aussi. De l'avidité... Et on a vu aussi que l'avidité, c'était quelque chose qui était terrible. C'est quelque chose de la chair. L'avidité, c'est je veux quelque chose à tout prix, par n'importe quel moyen. Je vois une belle bagnole qui me plaît, je la veux. Donc, je vais me renseigner, je prends tout et paf, je la prends à n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. Et ça, c'est extrêmement grave. L'avidité vous détruira votre famille, détruira votre vie d'une manière générale. On a vu aussi la naïveté. Et la naïveté aussi, c'est extrêmement dangereux. Parce que les chrétiens ont tendance à être naïfs. Parce que quand tu es né de nouveau, toi, ton cœur est droit. Mais sache une chose, il y a beaucoup de personnes que tu rencontreras qui n'ont pas un cœur droit, selon le Seigneur. Il y a des gens qui sont très mal intentionnés, qui te proposeront des affaires, des mauvaises affaires. Très mauvaises affaires. Et parfois, on tombe dans des pièges stupides parce que nous, chrétiens, on voit quelqu'un qui semble être bien. Quand vous rentrez dans une relation quelconque, écoutez votre cœur, frères et sœurs. N'écoutez pas votre tête et les circonstances. Les circonstances et notre tête peuvent parfois nous tromper complètement. On a tous fait des expériences où on s'est engagé dans des trucs, ou même avec des gens. Et pourtant, notre cœur disait non, mais notre tête et nos sentiments disaient oui et amen. Et c'est là où on s'est fait avoir. Et quelques temps après, on a bouffé les fruits pourris et on s'est dit, pourtant, je sentais pas qu'il fallait que je le fasse, mais je l'ai quand même fait parce que je voyais que ça avait l'air d'être bien, etc., etc. Alors, une dernière chose, diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est dangereux. Si vous avez mis un peu de sous pour faire des affaires, faites attention. Ne mettez pas tout dans le même panier. Ça, c'est l'erreur classique qu'on fait. Je l'ai faite aussi. Il y a des gens qui l'ont fait. J'ai entendu récemment, il y a quelques jours encore, un témoignage de quelqu'un qui a tout mis. Il a acheté un immeuble en Europe et il a divisé ça en appartements et il voulait récupérer avec du locatif. Et malheureusement pour lui, il s'est retrouvé avec quelqu'un qui a saccagé des appartements. Quelqu'un qui apparemment est possédé et qui fait des histoires épouvantables, comme par hasard, c'est envers un chrétien, bien sûr, comme par hasard, et il lui a saccagé pas mal d'appartements, et il s'est retrouvé avec des créanciers qui sont là, qui le poursuivent, parce que il faut payer.
et qu'il ne peut pas louer des trucs qui ont été saccagés et qu'il a été obligé de remettre, je ne sais pas, du style 100 000 euros pour faire des travaux. Donc, il est coincé entre dette, plus dette, plus dette, plus dette, parce qu'il voulait faire un très bon coup qui avait l'air très bien, mais qui n'a pas marché. Et quand vous êtes engagé à fond, que vous avez mis tout ce que vous avez quelque part et que ça ne fonctionne pas, je le vois aussi beaucoup en Afrique, ça. Des gens qui ont là, ils vont avoir 5 000 $, ils vont faire un truc, ils veulent acheter par exemple un véhicule pour faire de la location, pour faire un taxi, pour faire des trucs et des machins, et paf, le véhicule pète au bout de 3 mois. Et ils ont emprunté de l'argent, et boum, ça se passe mal. C'est classique, c'est des coups classiques ça. Et souvent on se retrouve comme ça. Alors, diversifiez vos investissements. Ne comptez pas non plus sur un seul salaire. Souvent les gens font cette erreur. Ils ont un salaire et ils se disent, si mon salaire grossit, c'est bien, gloire à Dieu, j'ai ma promotion, et ils se concentrent seulement sur ça. Non. Si tu as un bon salaire, mets de l'argent de côté et commence à faire d'autres investissements. Tu peux t'intéresser à la bourse. Et là aussi, il faut faire très attention avec la bourse. Il faut avoir beaucoup d'enseignements, de renseignements et faire très attention parce qu'il y a des loups dans la bourse. Des loups qui sont prêts à piquer tous les petits porteurs. C'est leur méthode. Ensuite, tu peux faire des investissements dans l'immobilier. Oui, c'est vrai. Peut-être dans des commerces, si tu as la bosse du commerce, etc. Donc tu diversifies. Tu récupères 500 $ là, tu récupères 1 000 $ ici, tu récupères 2 000 ici. Tu as ton salaire, ton machin, ton truc. Et finalement, tu as diversifié tes investissements. Tu prends des trucs un peu plus risqués, des trucs moins risqués dans les investissements, etc. Mais diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tout dans le même panier. Il y a des gens, par exemple, ils font une chose, ils ont un capital, et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent tout de suite une maison. C'est bien d'acheter une maison. Le problème, c'est qu'après, tu n'as plus le cash pour faire d'autres choses qui pourraient t'amener à faire des investissements. Vous voyez? Et souvent, on va dire, l'accession à la propriété tout de suite, c'est bien, mais parfois, on se retrouve bloqué. Parce que finalement, tu avais 40 ou 50 000 dollars, et si peut-être tu avais fait de la bourse, ou si peut-être tu avais fait d'autres placements, tu récupérerais des sous qui t'auraient permis de recréer une bonne partie de ton capital, qui auraient permis d'acheter la maison, mais en même temps, tu avais quelque chose pour tourner, et tu avais du cash. Parce que quand tu as du cash, tu peux faire des choses dans ce monde, très facilement. Quand tu n'as pas de cash, tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu peux avoir une belle maison où tu as payé la moitié, mais si tu as 1 000 $ dans ton compte en banque, tu ne pourras rien faire qui va générer d'autres sources de revenus. Donc il faut diversifier nos sources de revenus, parce que souvent c'est une bêtise qu'on fait, on ne diversifie pas nos sources de revenus. Et moi j'ai appris, que ce soit dans le ministère, que ce soit personnellement, maintenant j'ai fait plein de petites sources de revenus. Tu récupères 200-300 ici, tu récupères 500 là, tu récupères 100 ici, etc. Et ça se multiplie. Et c'est beaucoup mieux, parce que si tu as quelque chose qui marche moins bien pendant un temps, ou si tu as un ennui sur une source de revenus, c'est pas grave. Tu continues à tourner et tu auras du cash pour remplir peut-être une bêtise que tu auras faite sur une source de revenus, ou tu auras mal anticipé une situation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Nous avons besoin de sagesse. Les chrétiens devraient être les gens les plus intelligents et les plus sages de cette terre, frères et sœurs. Et malheureusement, on voit souvent qu'ils font des trucs. Je me souviens d'un frère récemment, il a commencé avec rien. On a plein de témoignages dans l'église, j'en ai donné beaucoup déjà. Mais je me souviens de ce frère, il a commencé avec rien. Étudiant d'une famille pauvre, d'un quartier pauvre, vraiment en galère. Le gars complètement en galère. Mais il est à l'église depuis très longtemps maintenant. Et il a entendu des enseignements pendant des années. Et puis il a commencé à faire des trucs... se débrouiller dans la vie. Bon, et puis après, il s'est acheté, vous savez, une machine à pop-corn. Une machine à pop-corn, ça vous dit pas grand-chose peut-être ici, mais lui, il a fait des sous avec ça, des trucs comme ça. Il a fait ces petits trucs-là. Et puis, il a commencé à gagner. Il a commencé à avoir un capital qui commençait à être pas mal. Et puis, d'un seul coup, il a fait des champs aussi, il a commencé à cultiver, il a commencé à diversifier un peu. Et puis, il vient me voir et il avait un truc. Il m'a dit, je vais prendre tout mon argent et je vais investir ça dans un restaurant. Et je commence à regarder ce qu'il faisait. Je dis, mais est-ce que tu as vu la personne, tout ça? Il m'a dit, oui, la personne est là, ça marche bien son truc. Je lui dis, tu es sûr que ça marche bien? Oui, elle m'a dit que tout marchait bien, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de clients, etc. Je lui dis, est-ce que tu as vérifié? Non, pas vraiment, elle m'a dit que ça marchait très bien. Et la personne voulait lui vendre un fonds de commerce, avec d'abord tout le mobilier qui est avec. Le mobilier était surestimé. Je lui dis, est-ce que tu as fait une estimation? Vous voyez, donc c'est parce qu'il a démarré avec rien. Et parfois, des gens qui démarrent avec rien, qui veulent aller un peu plus loin. Et je lui dis, mais fais gaffe, tu es là, tu vas mettre tout ton argent, tu es obligé même d'emprunter à la banque. Mais si ton truc ne marche pas du tout selon ce que cette dame t'a dit, tu vas couler. Tu vas te retrouver avec des dettes et finalement, tu vas retomber par terre. Et souvent aussi, c'est ce qu'on fait. On manque de sagesse, frères et sœurs. Pourtant, Dieu nous dit de prier pour la sagesse. C'est marqué dans Jacques. Priez pour la sagesse. Ne soyons pas naïfs. La naïveté est souvent attachée aux chrétiens. Les chrétiens sont là, ils se lancent dans des trucs en disant « je vais prier, ça a l'air bien, je fonce ». Et on se casse la figure 9 fois sur 10 avec ce genre d'attitude. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de devenir sage et avisé, de faire attention à ce que tu fais et d'écouter son esprit. Et aussi, dans le naturel, d'avoir les meilleures idées. Nous devrions être les Bill Gates. C'est triste de voir que la majorité des inventeurs sont des païens. Les chrétiens sont rares. Ah, si on entend un chrétien qui a été un inventeur de quelque chose, là, tout le monde va en parler dans le corps de Christ. Alors que les païens auront inventé 50 000 fois plus de trucs que nous. Moi, je trouve ça dommage. Nous devrions avoir les meilleures idées. Surtout, nous devrions faire avancer le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas les chrétiens qui font avancer le monde, ce n'est pas l'Église, ce sont les païens qui font avancer le monde. Pourtant, nous avons pareil qu'eux, 24 heures au jour, dans notre capital temps. Et c'est vraiment dommage. Allez, je vais vous faire quelques enseignements sur la volonté de Dieu. On va en parler. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous allons parler d'un certain nombre de principes divins aussi sur la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Là, nous allons parler de choses en partie spirituelles. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible nous dit « Priez en tout temps par l'Esprit » ou littéralement en étant dans l'Esprit, ou la meilleure traduction ce serait « Priez au temps convenable, à la bonne saison, dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La Bible nous dit ici quoi ? La Bible nous montre dans ce verset un certain nombre de choses à propos de la prière. Je vais vous parler pendant à peu près 30 minutes sur la prière et je voudrais vous aider à comprendre un certain nombre de fondations sur la volonté de Dieu et votre destinée. La Bible nous dit « prier en tout temps », littéralement à la bonne saison, dans l'esprit. Donc, la Bible nous montre clairement d'abord qu'il existe des prières dans l'esprit, mais surtout après, la Bible nous dit que, ici c'est Paul qui nous parle, il nous dit « avec toutes sortes de prières ». Toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a différents types de prières, différentes sortes de prières qui vont avoir des règles différentes. Et ces règles différentes, nous devons les connaître. Il y a un certain nombre de choses, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, qu'il va falloir que tu connaisses afin de le pratiquer. Parce que Dieu a des règles au niveau de la prière. D'abord, la prière, d'une manière générale, qu'est-ce que ça va être ? La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Une des définitions de la prière, c'est communiquer avec Dieu. Maintenant, la communication, ça se fait pas n'importe comment. Vous avez jamais été au téléphone avec quelqu'un et vous arriviez pas à en placer une. Hein ? La personne était là, et oui, en fait, et elle parlait toute seule, en quelque sorte. Au bout d'un moment, vous en aviez tellement marre que vous mettez le téléphone comme ça. Ça vous est jamais arrivé de faire ça ? Hein, vous en avez rencontré des gens comme ça. Les gens, ils vous tiennent, on dit en français, tenir la jambe pendant 2 heures au téléphone et hop, vous voyez le numéro, vous dites, ah, c'est pas vrai. Maintenant, les téléphones portables, c'est pratique parce qu'on sait qui nous appelle en général. Mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone où ça s'affichait. Donc, on était là, tu réponds, ah, c'est ma mère, oh là là, maman, oui, je t'aime beaucoup. Ah oui, tu disais, oui, mais tu m'écoutes pas. Si, si, je t'écoute. Est-ce que je veux dire ? Des gens comme ça. Et souvent, les chrétiens sont comme ça. Ils sont là avec Dieu. Ah, brrr, Seigneur, brrr, tu vois, brrr, Seigneur. Brrr. Et en fait, ils sont comme des grands-mères, en train de parler. En fait, ils parlent tout seuls. La prière n'est pas d'aller raconter tes petites histoires à Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils utilisent la prière, ils disent qu'ils prient toute la journée. Et Seigneur, tu vois, et Seigneur, tu... Et Seigneur, béni... Et Seigneur, tu vois, mon chat, il a... Mais Seigneur, on n'a rien à foutre de ton chat, excuse-moi de le dire. Ça, c'est pour toi, c'est un agrément pour toi. Vous voyez, les gens font tout et n'importe quoi. Non, la prière, c'est quelque chose qui est excellent, mais il faut savoir l'utiliser. C'est un outil que Dieu nous a donné. Un outil qui permet de développer notre relation avec lui et de voir Dieu agir dans nos situations. Et dans la prière, il y a différents domaines. Par exemple, dans la prière, il y a des temps de louange et d'adoration. Dans les temps de louange et d'adoration, tu ne demandes rien à Dieu. Tu viens à Dieu et tu lui apportes quelque chose. La louange vient de ton âme, c'est une décision. Tu vas apporter ta louange à Dieu. L'adoration, par contre, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. La louange va te faire entrer dans la présence de Dieu et l'adoration va te permettre de demeurer dans sa présence, dans son intimité. Mais aussi, dans notre relation avec Dieu, il y a des moments où nous demandons des choses à Dieu. Parce que la Bible nous dit, de faire connaître nos besoins à Dieu. Et c'est tout à fait scripturaire de demander un certain nombre de choses au Seigneur. Une action divine par rapport à quelqu'un qui n'est pas sauvé, être rempli de sa présence, du Saint-Esprit, quelque chose de particulier que tu veux voir matériellement parlant, etc., etc. Ça, ça fait partie aussi de ta vie de prière. Et puis, tu as aussi des prières qu'on appelle dans l'esprit. Et ça, ce sont des puissantes prières. Et dans les prières dans l'esprit, il y a différents niveaux. Il y a différentes dimensions. La dimension la plus basse, c'est la prière en langue. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu pries en langue. Et la Bible nous dit que celui qui prie en langue, son esprit est en prière. Son intelligence demeure stérile. Par contre, la prière dans l'esprit te permet de te connecter parce que tu as besoin de quelqu'un qui vienne t'aider dans la prière, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et très souvent, les gens sont tellement connectés sur les choses du monde. Vous savez, il faut savoir se fermer aux choses du monde. Plus les sociétés sont matérialistes, plus tu as mille et une raisons de mettre ta petite tête sur des choses naturelles. Le problème, c'est que si ta petite tête est sur les choses naturelles, ton esprit ne pourra pas te dominer. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Beaucoup de gens prient, mais ils prient avec leur tête. Ils sont là, ils prient selon ce qu'ils pensent dans une situation. Et vous savez, il y a beaucoup de situations dans lesquelles nous avons besoin que Dieu nous parle précisément et être sûr que Dieu nous a parlé. Et aussi être dirigé par l'Esprit. Et ça, ça s'appelle ce qu'on appelle la prière de supplication. La prière de supplication, c'est pas de venir devant un mendiant, comme un mendiant devant Dieu, mais c'est simplement avoir une direction sur comment prier. J'appelle ça la prière ointe. C'est-à-dire que tu es là, tu as une telle inspiration, ça vient tellement de ton esprit. Le Saint-Esprit met des choses dans ton esprit et tu sais qu'il faut les prier. Tu as une direction sur comment prier par rapport à une situation. Et ça, c'est extraordinaire. C'est puissant, ça j'aime trop. Ça, c'est entrer. Tu es entré dans le monde de l'esprit et tu commences à être tellement inspiré quand tu pries. Tu n'es pas là en train de dire, Seigneur, bénis mon pasteur, Seigneur, bénis les chrétiens, Seigneur, bénis toutes les églises du monde, Seigneur, bénis. Non, ça c'est la prière qui porte rien du tout. Mais tu es là et tu touches le cœur de Dieu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit commence à te mettre des choses dans ton cœur extraordinaires. Et tu commences à prier ces choses et tu vois des résultats divins à ce moment-là. Ensuite, il y a, dans l'esprit, il y a une dimension beaucoup plus importante, ce qu'on appelle la prière d'intercession. Et la vraie prière d'intercession ne peut pas être initiée par l'homme. Elle est initiée par le Saint-Esprit, la vraie prière d'intercession. Le mot intercéder veut dire quoi? Le mot intercéder, c'est prier pour éviter un jugement sur une personne qui est coupable de ce jugement. Pour que ce jugement soit retardé ou qu'il soit même ôté. Si vous voulez voir un exemple de prière d'intercession, c'est Abraham qui est là et quand Dieu vient le visiter, Abraham va commencer à intercéder, à plaider la cause de Lot, son neveu, qui s'est mis dans une perversité, qui était complètement rétrograde et qui était parmi les gens de Sodome et Gomorre, où il y avait de l'homosexualité, où il y avait aussi des sacrifices d'humains qui étaient faits, de la sorcellerie au maximum, et Dieu avait dit « je vais détruire ». Et Abraham a intercédé pour que Lot, alors qu'il était dans le compromis, puisse sortir. Et l'intercession se fait envers des gens qui sont coupables, par exemple envers des chrétiens qui sont rétrogrades et qui sont retournés dans le péché et qui sont en danger. Parfois, l'intercession se fait en langue, mais c'est toujours initié par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous tombe dessus à ce moment-là et vous êtes complètement par terre. Souvent, les évangélistes ont cet esprit d'intercession pour les âmes perdues. Ils sont là, ils sont tellement saisis par la puissance de Dieu que c'est comme si là, ils allaient accoucher en quelque sorte. Ils avaient la douleur de l'enfantement. C'est à l'intérieur de leur esprit, ils sentent le cœur de Dieu. Dans l'intercession, tu es dans le cœur de Dieu. C'est la plus grande intimité que tu peux avoir avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment des prières. Quand tu sors de ces moments-là, tu vois des résultats fabuleux, des situations complètement impossibles où l'ennemi avait mis sa main d'un seul coup, paf, la puissance de Dieu tombe là-dessus. Et c'est que les situations sont complètement transformées. Et tu vois des résultats, mais incroyables, de la puissance de Dieu. Tu vois des âmes perdues d'un seul coup venir en masse à Christ. Tu vois des gens qui allaient mourir d'un seul coup. Dieu les touche d'une façon incroyable. Et ils sont là, ils se repentent et ils viennent dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ça c'est l'intercession, c'est absolument fabuleux cette prière. Alors là, ce que je voulais voir un petit peu avec vous ce matin, c'est la prière donc de ce qu'on appelle de dédication, c'est-à-dire de recherche et de soumission à la volonté de Dieu. Ça c'est quelque chose qui est très important dans votre vie, que vous devez connaître. Parce que je vais vous dire une chose, si vous ne connaissez pas votre destinée, vous allez avoir des problèmes dans votre vie spirituelle. Alors, on va parler de ce que c'est que la destinée. D'abord, il faut comprendre que Dieu a deux groupes dans sa volonté. Il a la volonté générale. La volonté générale de Dieu, c'est quoi? La volonté générale de Dieu, c'est très simple, c'est écrit dans la parole. La volonté générale de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté générale de Dieu, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu puisses prier en langue. La volonté générale de Dieu, c'est que tu sois prospère. La volonté générale de Dieu, c'est que tu sois guéri, que tu manifestes la guérison. La volonté générale de Dieu, c'est que tu aies une longue vie sur la terre. La volonté générale de Dieu, c'est que tu aies un pasteur, une autorité spirituelle et que tu sois planté dans une église locale, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qui sont la volonté générale de Dieu, qui sont ni plus ni moins écrites dans la parole de Dieu. C'est très simple, très simple. Il suffit de lire la parole à la lumière de notre alliance en Christ, bien sûr, parce que là aussi, il y a beaucoup de bêtises qui sont faites en cherchant des passages à droite, à gauche, dans toute la Bible. Là, nous sommes sur une nouvelle alliance, donc nous devons regarder. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu, c'est ta destinée. Chacun d'entre nous ici, Dieu a écrit quelque chose dans le ciel, qui est prophétique. Dieu t'a créé non pas par hasard. Tu vas me dire, oui, mais moi je suis venu, je suis l'enfant d'une prostituée. Désolé, tu es venu sur la terre et tu as une destinée. Ça, c'est super. C'est ça l'avantage avec Dieu. Tu peux être né, on a peut-être pu te rejeter dans toute ta vie, peu importe. Peu importe, c'est pas ça que tu dois regarder. Ce que tu dois regarder, c'est comment Dieu te voit prophétiquement. Prophétiquement. Parce que ça, c'est important. C'est ce qui va te donner une vision dans ta vie. C'est ce qui va t'amener à pouvoir prier dans la direction divine. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens ne font rien et ne deviennent rien, je dirais, dans le royaume de Dieu, ne s'épanouissent pas parce qu'ils regardent d'où ils viennent. Ça, c'est dramatique. Dieu veut leur parler et il leur parle, mais ils n'arrivent pas à entrer dans les choses de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas leur destinée. Alors, la destinée, c'est comment Dieu te voit prophétiquement. Vous savez, quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde jamais dans l'état dans lequel nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Parfois, tu es là, tu peux être dans une relation avec quelqu'un, tu dis vraiment, toi, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Tu vois pas là, tu ne vois pas comment Dieu veut le voir. C'est pour ça qu'il faut essayer de voir les gens, je dirais, toujours croire dans le meilleur des gens, des chrétiens nés de nouveau. C'est très important. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des mauvais comportements et ils ont besoin d'être aidés, d'être repris, d'être corrigés, mais d'être aidés pour changer. Bon, il y a des gens qui ne changeront pas. Ça, désolé, on ne peut rien faire pour eux. Mais Dieu nous voit toujours prophétiquement. Tu dois te voir prophétiquement aussi. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est vrai qu'on va le dire, oui, c'est Abraham, etc., mais c'est ça qu'il fait avec nous. Dieu te voit toujours prophétiquement. C'est pour ça que le Seigneur, il veut te révéler ce qu'il a pour ta vie. Parce que c'est ce qui va te donner une vision. Une vision qui est faite de direction et qui va être aussi motivée par des décisions. Ça, c'est important à comprendre. C'est pour ça qu'il faut que tu saches que Dieu veut que tu deviennes. Pour que tu sois utile dans son royaume. Ça, c'est absolument fondamental. Si tu n'as pas de vision, la Bible nous dit, vous connaissez tous ce verset, sans vision, le peuple périt. Okay, il meurt, il va nulle part, littéralement, dans l'hébreu. C'est-à-dire, il est sans frein. Il va à droite, à gauche, etc. Il ne sait pas où il va. Si tu n'as pas de vision dans ta vie, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas, parce que tu ne sais pas où aller. Une vision va te donner quelque part où aller, c'est ça qui est important. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ta vie, il va falloir que tu recherches cette destinée. Et il y a des temps où il va falloir que tu te mettes devant ton Père Céleste. en lui disant, mon papa, tu m'as sauvé, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Ça va être de mettre ta vie à la disposition de Dieu. Tu ne seras jamais épanoui et prospère à tous égards si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu pourras essayer de faire quelque chose d'autre, essayer d'être quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Parce que tu as été créé pour un but particulier, avec un plan divin particulier. Et tu dois connaître ce plan divin. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu pries d'une certaine manière pour découvrir ce plan divin. C'est ce qu'on appellera la volonté spécifique de Dieu ou la destinée. Donc c'est très clair qu'il va y avoir toute une sorte de, je dirais, de combat en nous. Parce que souvent les chrétiens, comme ils ne comprennent pas ce principe, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident des choses. Ils essayent de diriger leur vie par ce qu'ils pensent qu'il faudrait, je dirais, comme ça devrait être. On va regarder dans Colossiens chapitre 1, il y a un très beau verset que l'on va décortiquer, qui est un verset de la parole qui va beaucoup nous aider à comprendre certaines choses. Colossiens 1, verset 9, il est dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et que vous demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, ce n'est pas la volonté générale, parce que la volonté générale, c'est dans la parole. Ça, c'est connaître ta destinée. Voilà ce pourquoi Dieu t'a créé. En toute sagesse, et regardez bien, en toute sagesse et intelligence spirituelle. On va revenir sur cette petite partie de verset après. Mais d'abord, Dieu te dit qu'il faut prier, pourquoi ? Pour connaître sa volonté. Savoir qu'est-ce qu'il a pour toi. Ta destinée. Parce que Dieu a toujours des projets de bonheur pour nous. Il a toujours des projets excellents. Mais encore faut-il être sûr que Dieu va te parler et que tu puisses connaître ses plans et ses projets. Et ensuite, il va falloir que tu apprennes à entrer dans ses projets et ses plans. Et c'est ça dont on va parler dans quelques minutes. Mais d'abord, il faut chercher. Il y a des périodes de ta vie où il faut que tu te mettes devant Dieu. Tu dis, Seigneur, pourquoi me destines-tu? Dieu te parlera peut-être en te disant, j'ai un ministère pour toi. Ou Dieu te dira, non, je veux que tu sois un homme d'affaires. Ou Dieu te dira peut-être, non, je voudrais que tu sois ça et ça dans la vie. Et je voudrais que tu aies tel et tel type de personne. Rappelez-vous d'une chose, votre vie est une semence pour aider les autres. Si vous voulez être égoïste, la recette du chrétien malheureux, c'est très simple. C'est moi, moi et seulement moi. Et les chrétiens qui sont tournés vers eux-mêmes, ce sont des chrétiens malheureux. Vous pouvez prier pour eux, ils peuvent faire des expériences avec Dieu, ils vont faire des expériences avec Dieu selon leur foi, mais je vais vous dire, au bout d'un certain temps, ils seront très malheureux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours tournés sur eux-mêmes. Mes besoins, ma bénédiction, moi, moi et moi seul. Et ça, ça nous fait des chrétiens égoïstes, malheureux, et il n'y a rien de mieux pour avoir une église qui est bouillante pour le Seigneur au départ et qui devient complètement froide quand vous commencez à insister sur ce genre de choses. Et on l'a vu et on le reverra encore. Tu dois être béni, oui c'est vrai, mais pas pour toi, pour être une source de bénédiction. Tu dois découvrir ta destinée et marcher dans ta destinée parce que Dieu veut que tu sois un canal pour les autres. Si tu ne veux pas cela dans ta vie, tu seras malheureux. Et beaucoup de chrétiens tournent en rond dans leur vie spirituelle à cause de ça. Parce que leur prière, c'est quoi? Seigneur, moi, moi, moi et moi. Tu sais, si tu veux savoir si tu es un chrétien égoïste, c'est très simple. Très, très simple. Regarde pour qui tu pries. Si la majorité de tes prières, c'est pour toi-même, tu es un chrétien égoïste. Tu es quelqu'un qui ne sait pas déverser la bénédiction sur les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont tout le temps en train de prier pour eux-mêmes. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je te prie pour moi, pour ceci. Seigneur, je veux me sentir comme ça. Seigneur, gna gna gna. Seigneur, gna gna gna. Mais ça, c'est de l'égoïsme, frères et sœurs. C'est de l'égoïsme. Tu ne seras jamais heureux et épanoui si tu as ce genre de mentalité. Tu resteras toujours par terre. Toujours par terre. Donc, qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté. Rempli de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est très important. Il y a un temps où tu dois chercher, entre guillemets, comprenez bien l'expression, agressivement la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu dois passer du temps devant ton Seigneur. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, parle-moi précisément. J'ai besoin que tu me montres exactement ce que tu attends de moi. Et pour ça, il faut que tu te mettes dans une position. J'ai remarqué une chose dans ma vie spirituelle. c'est que si je ne suis pas dans une certaine position, Dieu ne me parlera pas. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ah, faites attention à ça. Ça c'est très important. Parce que, vous savez, souvent les chrétiens disent « Seigneur, parle-moi », mais en fait, ils ne sont pas prêts à obéir. Ah, mon frère, ma sœur, travaille en toi. Travaille en toi. Dieu ne te parlera pas si tu n'es pas prêt à l'obéissance. Positionne-toi de la meilleure des façons pour que Dieu puisse te parler. Mais vous savez, Dieu ne va pas perdre son temps avec des chrétiens qui ne veulent pas écouter et pas obéir. Il faut être clair. Dieu a autre chose à faire. S'il n'en trouve pas un qui veut faire ça, il ira en chercher un autre. Tu dois te positionner. C'est-à-dire vraiment dans ton cœur dire, Seigneur, vraiment si tu me parles, je te promets de tout mon cœur. Et vous savez, on ne triche pas avec Dieu. Tu peux dire ça avec les hommes. Ma chère amie, je te promets de tout mon cœur de t'aimer toujours. Et puis tu n'as aucune intention. Non, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est du relationnel réel. Donc tu es là, tu viens devant ton Seigneur et tu dis, Seigneur, vraiment mon Père, si tu me parles, si tu me montres ce que tu veux que je devienne, vraiment je vais t'obéir dans ce que tu me demanderas. Seigneur, je veux vraiment faire ce que tu me demanderas de faire. Vous savez, ce n'est pas facile de faire ça. Mais il n'y a que ces gens-là qui vraiment sont épanouis dans le Seigneur. Il y a un prix. On ne parle plus beaucoup, vous savez, du renoncement, de porter sa croix et du prix. On a fait de porter sa croix, vous savez, la maladie, c'est porter sa croix. Je pense que vous êtes au-dessus de ça. Vous avez compris que c'est faux. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni le manque, ou ni quoi que ce soit, c'est porter sa croix. Ça, c'est ne pas comprendre le royaume de Dieu. Mais d'un autre côté, de plus en plus dans nos milieux charismatiques, on ne parle plus du prix à payer. Parce que les gens ne veulent plus le prix à payer. Ce qu'ils veulent, c'est la bénédiction. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais l'un ne va pas sans l'autre. La consécration, la sanctification amène la bénédiction. Il faut être clair. Sanctification et bénédiction sont connectés. Souvent, les gens disent, « Ah, je veux que Dieu me bénisse dans le domaine des finances. Je voudrais que Dieu me bénisse, je veux sentir sa présence. » Mais il y a une consécration pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver par hasard dans ta vie. Dieu n'est pas stupide. Dieu ne violera pas les lois spirituelles. Il a besoin de gens consacrés. Et aujourd'hui, l'Église est très peu consacrée. Il faut revenir au temps de prière où on est passionné par Dieu. Pas simplement venir au deuxième culte le dimanche matin. Dis à ton voisin, j'espère que tu as des oreilles pour entendre. Non mais soyons clairs, frères et sœurs. Si vous voulez une vie épanouie, il va falloir foncer avec Dieu. Il faut être bouillant pour Dieu. Oui, mais moi, je suis... Ouais. Eh bien, secoue tes plumes. Si tu as des plumes. Mais soyons clairs. Si vous voulez vivre des choses intenses avec Dieu, il faut que vous soyez une personne intense. Pas quelqu'un qui est là, Seigneur, moi. Seigneur, aujourd'hui, dans la louange, je n'ai pas beaucoup senti ta présence. Je ne te ressens pas aujourd'hui, au-dedans de moi. On ne te demande pas de ressentir Dieu. On te demande de marcher par la foi. Amen. Et de te consacrer. Le reste, ça viendra. Plus tu développeras ta nature spirituelle, plus ça sera simple d'entrer dans la présence de Dieu et ressentir Dieu, si tu veux utiliser cette expression. Le problème, c'est que les gens mettent les choses à l'envers. Ils veulent voir Dieu agir, mais ils ne veulent pas payer le prix de la consécration. Et je suis désolé. Il faut être clair. Soyons clairs. Arrêtons d'enseigner des gens ou prêcher à des gens. Tu seras ceci, tu seras béni, tu seras. Oui, mais il y a un prix. La consécration, c'est renoncer à sa vie. La sanctification, c'est nettoyer ta vie. Quand tu viens à Christ, tu nettoies ta vie. Tu renonces au péché. Tu coupes avec le péché. Tu coupes avec tes relations pourries. Soyons clairs. Tu ne peux pas vivre ou être proche de gens qui vont polluer ta vie et t'entraîner à nouveau dans le péché. Soyons clairs. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Soit tu veux vraiment Dieu, et là tu vas vivre des choses avec Dieu, mais crois-moi que tu vas passer par un nettoyage complet. Et ça, il le faut. La sanctification n'est pas une option comme une voiture. J'ai l'option du CD MP3. Non. C'est pas une option. C'est une exigence. C'est pas la même chose. Et une partie de la sanctification, c'est nettoyer ta vie. Grand silence. Une autre partie, c'est t'approcher de Dieu. Mais Dieu est trois fois saint. Si tu veux que Dieu te parle, fais du nettoyage. Mets-toi en position. Il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait des gaffes, maintenant j'arrête. Ça suffit. Je me nettoie. Je renonce à ça. Seigneur, je coupe là. J'en ai assez. Par contre, Seigneur, tu vas me parler, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin que tu me parles. Tu fais ça, mais Dieu va te parler, Dieu va te visiter. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Arrêtons de dire, le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit là, le ceci. Oui, Saint-Esprit, mais n'oubliez pas que c'est l'Esprit Saint. Donc Dieu va bouger au milieu de la sainteté de son peuple. Ok ? De la consécration de son peuple. Dieu n'est pas là pour te faire des guilis-guilis. Hein. Soyons clairs. Il n'est pas là pour te faire des guilis-guilis. Sa présence n'est pas un petit jouet. Je viens, Seigneur, je vais goûter ta présence et je vais vivre comme j'ai envie de vivre. Non, mon frère. Non, ma soeur, ça ne marchera pas. Tu veux connaître la volonté de Dieu ? Si tu veux la connaître, il y a un prix. Il y a un prix de la consécration. Il y a un temps où tu dois te mettre devant sa face et chercher vraiment la face de Dieu. Parce que si tu cherches cette face de Dieu, ça va vraiment... Dieu va te parler si tu te positionnes. Alors, comment est-ce que Dieu va se révéler à nous et nous parler dans sa volonté? Parce que ça aussi, c'est souvent mal compris. On va reprendre tout à l'heure le texte de Colossiens, mais j'aimerais que vous compreniez certains principes. D'abord, Dieu ne vous parlera jamais dans votre tête. Mais il vous parlera toujours dans votre nature spirituelle, votre esprit. D'accord? Ça vient de là. Ça ne viendra pas de là. Ok? Ça, il faut bien que vous compreniez la différence entre votre nature spirituelle qui est née de nouveau, là où Dieu va vous parler, et votre tête. Votre tête n'est pas née de nouveau. Votre tête, bien, c'est votre âme, une partie de votre âme, un département de votre âme. Et ça, ce n'est pas né de nouveau. Dieu, donc, vous parlera au travers de votre nature spirituelle. Le Saint-Esprit va commencer à mettre des choses en vous. Et tu es là, tu as prié, bon, et le Seigneur a mis des choses en toi, mais tu ne comprends pas encore bien, c'est encore un peu flou pour toi. Et puis, tu es tranquille dans la présence de Dieu et ces choses reviennent, elles reviennent. Ce qui vient de votre âme, ça va partir au bout d'un certain temps. Ce qui vient de votre esprit et ce que Dieu veut pour vous, ça va rester. Et ça va petit à petit s'imposer dans votre esprit si vous avez un cœur sincère. Donc c'est très facile de découvrir la volonté de Dieu. Parce que souvent les chrétiens, ils veulent que Dieu leur parle de leur façon. Ne priez jamais la chose suivante. Seigneur, donne-moi une vision. Ah, tu vas avoir des visions. Ça, je te garantis, tu vas avoir des visions. Ah, ça c'est sûr. Mais ça ne sera pas du Seigneur. Faites très attention. Une révélation s'impose. D'accord ? Par la façon dont Dieu veut te parler. Si Dieu veut te parler par la voix de ton esprit, ta conscience, ce sera comme une petite voix à l'intérieur de ton esprit. S'il veut simplement te parler par le témoignage intérieur, à chaque fois que tu vas prier, ces choses-là vont revenir, ils vont revenir. Ils vont... Mais c'est bizarre, Seigneur, je ne priais pas spécialement pour ça, mais ça revient. Pourquoi est-ce que ça revient comme ça? Mais tu... Et ça, c'est Dieu. C'est simple, avec Dieu, c'est simple. Mais il y a des gens qui disent, non, moi, il faut que j'entende une voix audible. Attention, n'essayez pas de chercher à écouter des voix. J'ai vu des gens possédés. Un jour, j'ai été obligé de délivrer comme ça un chrétien qui s'est ouvert à un mauvais esprit. C'est dans mon bureau que ça s'est passé. J'étais obligé. Et il a commencé à s'ouvrir. Il disait, moi, le Saint-Esprit me dit, moi, j'entends des voix et tout ça. Et un jour, je l'ai attrapé, je lui dis, arrête d'écouter ces voix, parce que ça va mal tourner. Puis après, il a commencé à s'écarter de l'église. Et des mauvais esprits étaient rentrés dans son âme. J'ai délivré que quelques personnes. Vous savez, avec les délivrances, moi, je ne mets pas plus de 5 minutes à délivrer quelqu'un. Par contre, je veux qu'il soit dans les conditions. Je ne suis pas du genre à passer une nuit à chasser un démon, comme certains le font. Ça, c'est des gens qui ne comprennent rien à leur autorité spirituelle et qui ne comprennent rien à la puissance du royaume de Dieu, et souvent des gens qui vivent dans des sphères spirituelles imaginaires. Et cette personne, un jour, est venue dans mon bureau. Enfin, elle était venue au bureau, elle était dans la réception et il avait un comportement très bizarre. Ça faisait longtemps que je ne le voyais pas, alors j'ai juste salué comme ça. Et il voulait de l'aide. Et ce jour-là, si mes souvenirs sont bons, que je ne dise pas de bêtises, je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrêtes d'écouter ses voix. Et il m'a dit, il faut que vous m'aidiez tout ça. J'ai dit, oui, mais tu dois arrêter d'écouter ses voix. Parce que tu dis que c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il ne voulait pas, il est reparti comme ça. Une autre fois, il est venu et je l'ai vu assis, à moitié prostré. Et je suis juste passé. Et d'un seul coup, il m'a regardé. Et je dis, oh, toi, t'es pas tout seul. Il y a des habitants. Et je l'ai regardé comme ça. Et mon fils était avec moi. Alors j'ai dit à mon fils, ok, mon petit fiston, va un peu plus loin, là, jouer, là. Va juste un peu plus loin, là. On va s'occuper de quelque chose d'autre ici. Et là, je lui ai dit, et là, il était vraiment désespéré. Ses esprits sataniques le tourmentaient dans son âme. Je vous rappelle qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit, qu'on soit bien d'accord. Par contre, s'il s'ouvre à des mauvaises choses, il peut être, au bout d'un moment, malheureusement, de l'oppression, ça peut passer aussi à la possession dans l'âme, malheureusement. C'est pour ça, ne jouez pas avec le péché et ne jouez pas avec des trucs bizarres. Parce qu'il y a des chrétiens qui se ramassent des sacrés trucs dans certains milieux bizarroïdes. Vous savez, vous devenez pareil que le milieu dans lequel vous êtes. Si vous allez dans les milieux bizarres de charismato-planants qui font n'importe quoi, vous allez devenir aussi charismato-planant. Faites attention où vous mettez les pieds. Quand je dis charismato-planant, c'est-à-dire les gens qui sont charismatiques mais qui planent, qui font n'importe quoi, qui font des trucs soi-disant prophétiques alors qu'ils ne sont pas plus prophétiques que moi je suis boulanger. Ils font n'importe quoi. Et en fait, ce gars-là avait ce problème-là et je lui ai dit, moi je peux te délivrer, mais il faut que tu renonces à ces voies. Et là, il a dit vraiment, pasteur, je demande vraiment pardon d'avoir écouté ces voix. Il est instantanément délivré. Mais ce gars-là, au début, voulait écouter les voix. Il disait écouter le Saint-Esprit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Au bout d'un moment, ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, il voulait toujours écouter des choses. Non. La seule chose que tu dois écouter, c'est ton nature spirituelle. C'est tout. Mais n'essaie pas d'écouter des voix dans ta tête. Dieu me dit. Vous savez, il y a des gens, le Seigneur leur parlerait à peu près 20 fois par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une voix quasiment audible. Ça, c'est des gens qui jouent avec le monde spirituel et c'est très dangereux. Très dangereux. Et je vous assure, j'ai vu des gens comme ça qui ont très très mal tourné. Certains. Alors, comment est-ce que Dieu va parler? Il va nous parler. La façon dont il va nous révéler les choses, ça, c'est son business. Ne demande jamais à Dieu de faire d'une certaine façon. C'est Dieu qui te parlera comme il veut. Tu as le droit de demander, Seigneur, quelle est ma destinée, mais tu n'as pas le droit de demander dans l'Écriture le moyen par lequel Dieu va te parler. Fais très attention à ça. Et respectez cette loi spirituelle, parce que sinon vous allez vous égarer. Je vous dis, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, qui commençaient à marcher dans les choses de l'Esprit, et qui voulaient absolument forcer la voix de Dieu. Et qui se sont retrouvés avec vraiment des égarements spirituels. Des gens qui ont quitté des églises, des gens qui se sont fait manipuler après par des esprits familiers, c'est-à-dire des esprits sataniques qui leur disaient des choses et ils étaient persuadés que c'était Dieu. Et ils se sont retrouvés complètement égarés. J'ai vraiment eu des fois des trucs inimaginables. Je pense à un autre témoignage, mais je n'ai pas trop le temps de dire tout ça. Par contre, le Seigneur va faire une chose quand il va vous révéler sa voix, sa volonté. Dieu, alors écoutez bien ça, parce que sinon vous allez avoir des problèmes aussi. Dieu ne vous révélera jamais sa volonté en détail au début. Faites très attention à ça. Dieu va te révéler les grandes lignes de ta destinée. Il ne te révélera jamais tous les détails. Et là, justement, beaucoup de gens aussi se trompent. Quand Dieu a parlé à Abraham, je prends souvent l'histoire d'Abraham parce que c'est tout à fait typique dans la révélation de la volonté de Dieu. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Qu'il fallait qu'il sorte de sa patrie et qu'il allait faire de lui une source de bénédiction, qu'il serait béni, etc., etc., d'une grande nation, etc., etc. Dieu lui a donné des trucs complètement généraux sur sa destinée en général. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, plus il va obéir, plus Dieu va se révéler à lui et lui donner plus de précision. Je compare ça souvent, vous savez, à une lettre de courrier international. Quand, par exemple, vous voulez envoyer une lettre d'un pays qui est sur un continent vers un autre pays, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez Pasteur Fofine Dello et puis vous mettez 117 rue de la montagne, je ne sais pas trop quelle ville, etc., etc. Vous mettez la ville, vous mettez le code postal, et puis vous allez mettre après Canada. Bon, supposez qu'on écrit, je ne sais pas moi, d'Australie. On poste la lettre pour que ça arrive au pasteur Fofine Dello. Comment va être trié le courrier? Le courrier va être trié d'abord par quoi? Par continent. Et on envoie dans les différents continents. Ensuite, une fois que ça arrive sur certains continents, qu'est-ce qu'on fait? On va trier le courrier par pays. Une fois qu'on trie le courrier par pays, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah, ça c'est dans telle région, ça va dans telle ville, telle région. Chut, ça va aller dans un autre centre de tri. Et après, le facteur va arriver, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la lettre et va le mettre dans la boîte aux lettres de M. Mfofindelo, au numéro de la maison qui correspond. C'est la même chose avec Dieu. Dieu d'abord te révèle, entre guillemets, le continent. C'est-à-dire, il te donne les grandes lignes de ta destinée. Lorsqu'Abraham va sortir du pays où il était, de Ur en Chaldée, Dieu va se révéler et va lui parler que c'est, la descendance d'Abraham va être une grande nation. Puis, Abraham va continuer à quoi faire? Il va continuer à obéir, puis il va faire des gaffes aussi, de sérieuses gaffes. Mais après, en revenant dans l'obéissance, Dieu va continuer à lui révéler plus précisément sa volonté. Donc ne cherchez jamais à avoir des détails. Quand Dieu te dit, je veux que tu fasses ça, je veux que tu sois comme ça, je veux, voilà ce que je prévois pour toi, Dieu va te donner les grandes lignes d'abord. Ensuite, il va te demander de l'obéissance. Une fois que tu as de l'obéissance, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va commencer à te montrer plus, à te révéler d'autres choses au moment même où tu vas obéir. Ça, c'est très important. Ne cherchez pas tous les détails de la volonté de Dieu parce que vous allez les fabriquer. Et quand vous les fabriquez, j'ai vu plein de gens se planter comme ça. Dieu leur parlait, il donnait les grandes lignes et ils attendaient, ils n'obéissaient en rien. Alors que Dieu leur avait demandé quelque chose. Ils n'ont pas obéi et ils ont commencé à prier, à chercher Dieu, à jeûner, à faire toutes sortes de choses pour essayer de forcer la volonté de Dieu, pour connaître plus sur le plan de Dieu. Et très souvent, ils arrivent avec des trucs qui étaient incohérents. Et ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Ces gens-là restent sur la touche parce qu'ils n'ont pas un cœur obéissant. Quand Dieu te révèle une première part de sa volonté, les grandes lignes, il faut que tu obéisses. Quand tu obéis, il va après, au bout d'un certain temps, quand il voudra, te révéler la suite. Puis après, il te révélera encore la suite, etc. Jusqu'à temps que tu entres dans le centre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est comme un entonnoir. Au début, si tu commences à obéir, comme Abraham qui sort d'Ur en Chaldée, il connaissait où était l'entonnoir, il s'est mis à l'extérieur de l'entonnoir, juste tout en haut. Et plus ça allait, plus il descendait. Vous savez, dans un entonnoir, plus vous descendez, plus vous allez vers le centre. C'est le même principe avec la volonté de Dieu. Dieu te donne les grandes lignes, après c'est à toi de te positionner pour obéir, et après Dieu va continuer à te parler. Alors maintenant, on va regarder cet aspect de compréhension de la volonté de Dieu. Regardez Isaïe 55. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit. Et c'est pas parce que Dieu te révèle quelque chose que c'est à toi de te débrouiller pour savoir comment tu dois faire les choses. Parce que c'est une erreur qu'on fait très couramment. On reçoit la volonté de Dieu et qu'est-ce qu'on fait? On veut la faire à notre façon. Regardez ce que Isaïe 55 nous dit au verset 8. La Bible nous dit... Car mes pensées ou mes plans ne sont pas vos pensées ou vos plans. Vos voies ne sont pas mes voies. Les voies de Dieu, c'est quoi? Les voies, c'est la façon d'accomplir les plans de Dieu. Il ne faut pas que tu penses que parce que Dieu t'a parlé, que la façon d'accomplir, c'est toi ce que tu penses. Moi, je me souviens, la première année où j'ai été sauvé, le Seigneur m'a dit, tu dirigeras une école biblique. La première année, je savais même pas ce que c'était qu'une école biblique. Et puis quelques mois après, j'étais à l'époque dans les assemblées de Dieu en France, c'est là où je suis né de nouveau, les pentecôtistes, et quelques mois après, j'ai appris qu'il y avait des étudiants de l'école biblique ou de l'institut biblique là-bas, dans le mouvement où j'étais né de nouveau. Ah, je me suis dit, c'est intéressant ça. Waouh, c'est bien. Et puis, j'avais rencontré un étudiant, etc. Je commençais à m'intéresser où ça se trouvait, etc., etc. Et puis, je me suis dit, ah, je comprends le plan de Dieu. Alors, voyons. Finalement, il faut que j'aille étudier dans cet institut biblique. Et puis, comme Dieu m'a appelé à diriger un institut biblique, je pense qu'après, on va me voir briller parmi les étudiants et on va me placer comme professeur. Et puis après, j'ai appris autre chose. C'est que celui qui dirigeait l'institut biblique, c'était un vieux monsieur américain. Ah mais je me suis dit, ça y est, j'ai compris le plan de Dieu. Après être professeur, le vieux monsieur va partir. Et devinez qui sera le directeur de l'institut biblique? Le monsieur Olivier Derain. Oui, on fait nos plans. On n'est pas du tout dans le coup avec Dieu. Je suis aujourd'hui directeur d'un institut biblique, fondateur de l'institut biblique Enseigne-moi, mais je dirais, ça n'a rien à voir avec l'image que j'avais au départ. Souvent, vous voyez, on a nos trucs. Dieu nous dit quelque chose et on pense que Dieu va faire comme nous, on pense qu'il doit faire. Fais attention avec ça. J'ai vu beaucoup de gens échouer avec ça. Des gens qui s'embarquaient dans le ministère comme ça, boum, parce que Dieu leur avait dit qu'un jour ils prêcheraient que ceci ou cela. Et paf, ils se sont plantés. 20 ans plus tard, c'est tout juste s'ils vont encore dans une église. On les voit ces gens-là, j'en ai connu plein de ces gens-là. Plein. Des gens brillants, mais brillants. On les mettait à la prédication, vous savez, le pasteur voyait qu'ils avaient un appel, il les mettait à la prédication. Des gens qui prêchaient bien, mais ils ont voulu faire un Ismaël. Vous savez la différence entre Isaac et Ismaël ? Isaac, c'est le fils de la promesse. Abraham a eu le même problème. Au bout d'un moment, il a commencé à vieillir, il a vu qu'il n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu ? Écoute, Seigneur, les promesses, c'est pour Eliezer, le chef de mes serviteurs, mon administrateur. C'est quelqu'un qui est fidèle, Seigneur. C'est bon. Et Dieu va lui dire, non, c'est au travers de ton sein, de tes entrailles. Il a gaffé ce jour-là. Et Dieu va se révéler à lui et dire, non, t'as pas compris. La façon d'accomplir mes plans, ça ne va pas être ce que tu penses. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, Abraham ? Il va continuer à vieillir. Il dit, au travers de mon sein, d'accord, ok. Et Sarah lui dit, tu sais, moi je suis vieille maintenant, mon vieux. Il y en a une là, notre servante. Vous savez que c'était la coutume de l'époque. C'était la culture de l'époque. Dans la culture que l'on voit en Mésopotamie, on a retrouvé des fragments pour expliquer cette culture. Et en fait, cette culture, c'était de faire quoi ? Quand par exemple, un homme épousait une femme et que la femme ne pouvait pas avoir d'enfant, il était de culture en Mésopotamie que finalement, l'homme, le mari, puisse aller vers la servante pour avoir des enfants. C'était la culture. C'était la culture de la Mésopotamie, mais ce n'était pas la culture de Dieu. Et c'est pour ça qu'Abraham a accepté, qu'il n'a pas refusé. En fait, sa femme lui a dit quelque chose qui se faisait dans la culture de l'époque. Eh oui. Et parfois, vous savez, nous sommes confrontés à certaines choses comme ça. On a l'habitude de faire comme ça, donc on va faire comme ça. Mais ce n'est pas la culture de Dieu, attention. Souvent, c'est là où tu te plantes. Et Dieu... En fait, Abraham a fait cette erreur de faire Ismaël en passant par sa servante. C'était de la culture. Et constamment, on voit, quand on étudie bien l'Ancien Testament avec l'histoire d'Abraham, on voit la culture de la Mésopotamie qui est là. Et Abraham est attiré vers cette mentalité parce qu'il est né, il est dedans, il est né dedans. Et d'un autre côté, il y a Dieu qui lui dit, non, c'est pas comme ça. Rappelez-vous, Abraham n'avait pas la parole écrite. Nous avons la parole écrite pour mieux comprendre. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire ? Abraham, il va faire une sacrée gaffe et il va en apprendre pour 13 ans. Vous pouvez reculer votre destinée. Si vous étudiez bien la vie d'Abraham, vous verrez que, il s'est retrouvé, je crois, à l'âge de 86 ans, quelque chose comme ça, à faire son Ismaël. Et Dieu ne lui a pas parlé jusqu'à l'âge de 99 ans. Il s'est retrouvé 13 ans sur la touche. Quand tu fais des gaffes dans ta destinée, tu te retrouveras sur la touche pendant un certain temps. Faire que tu dis, Seigneur, pardon, je ne recommencerai plus jamais ce genre de truc. Vous pouvez reculer, vous pouvez retarder votre destinée. Le problème, c'est que plus vous faites d'erreurs dans votre destinée, d'erreurs d'interprétation, rappelez-vous ce que nous avons vu dans Colossiens 1:9, en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est-à-dire intelligence divine, voir comment Dieu fait les choses, non pas comment tu penses qu'il faudrait que ces choses soient faites, que ta destinée soit réalisée. C'est souvent l'erreur qu'on fait. Et Abraham, lui, n'avait pas compris ces principes-là. Petit à petit, il les a compris. À la fin, quand Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, il y va direct. Il prend, obéissance totale. Vous voyez la différence du début de la vie d'Abraham jusqu'à ce moment-là. Au début, il n'avait pas compris. Pour lui, il devait faire les choses comme il pensait devoir les faire. Ce qui paraissait pas très mal. Mais finalement, on s'aperçoit que c'était extrêmement mauvais. Et si vous voulez retarder votre destinée, faites attention. Parce que plus vous faites d'erreurs dans votre destinée, plus les années vont passer. Et mon frère, ma sœur, tu as un capital qui s'appelle le temps. Tu as un certain nombre de décades pour vivre sur cette terre. Et tu as intérêt à faire toute ta destinée, ou en tout cas en faire la majorité. Et tu es responsable de ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils sont là, ils vivent leur vie chrétienne, ils prient quelque chose, ils disent, oui, le Seigneur m'avait dit il y a tant d'années de faire ça, donc je vais faire ça. Donc, pasteur, je sens que c'est le temps de démarrer pour moi un ministère. Ça, je l'entends des milliers de fois. Je dois faire ceci, je dois faire cela, pasteur, etc., etc. Non, tu dois rien faire de ce que le Seigneur ne t'a pas encore dit de faire. Au moment où il te dit de le faire. Il y a des étapes, il y a des phases dans notre destinée. Dieu te demande d'obéir, est-ce que tu vas obéir? Si tu n'obéis pas et que tu commences à fabriquer la volonté de Dieu, tu vas te planter après. Complètement, tu vas t'égarer complètement, je le vois très souvent. Ensuite, si tu reçois la volonté de Dieu et que le Seigneur te demande quelque chose, tu obéis. Et au moment où tu obéis, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer à te parler sur autre chose. Après, il va encore tester ton obéissance. Il y a une chose que tu dois comprendre dans ta destinée pour arriver à ce que Dieu veut que tu sois. C'est que tu dois apprendre à faire confiance à Dieu, mais Dieu aussi doit apprendre à te faire confiance. Et il y a une différence entre les deux. Nous devons apprendre à marcher dans la foi et nous pouvons progresser dans la foi, mais il y a aussi une chose qui est sûre, c'est que si Dieu te demande quelque chose, il veut regarder si tu vas obéir ou pas. Un cœur obéissant est d'une grande valeur devant Dieu. Savoir discerner les temps et les moments quand le Seigneur te parle, c'est absolument indispensable. Sinon, tu vas empiéter sur ta destinée. Tu vas te retrouver à brûler les étapes. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse? Moïse avait un grand appel. Le libérateur, il savait dans son cœur, ça bouillait. Quand il voyait les Israélites, il avait mal dans le cœur. Parce qu'il voyait quoi? Il voyait son peuple, parce qu'il savait d'où il était issu, qui était esclave des Égyptiens. Donc il avait un appel qui brûlait dans son cœur. Mais la façon dont Dieu voulait réaliser ça, ce n'était pas la façon de M. Moïse. Et la première fois, il en a pris pour 40 ans. Il en a pris pour 40 ans. Il va tuer l'Égyptien alors qu'il avait cet appel. Mais il va faire une gaffe, il va faire une erreur qui va lui coûter. Cette gaffe va lui coûter tellement cher que pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver à garder des brebis. Ah, c'est sûr qu'il aura un troupeau, mais un vrai troupeau cette fois-ci. Après, il va avoir le troupeau de Dieu. Ce ne sera pas le même. Mais Dieu va lui dire, et quand il était mort à sa volonté, Dieu va être obligé de le motiver, parce que Moïse ne voulait plus y aller. Moïse a discuté avec Dieu. Dieu lui dit, tu vas aller voir, tu vas retourner en Égypte, tu vas aller voir Pharaon, tu vas lui parler, etc., etc., etc. Et en fait, Moïse, il ne voulait plus. Il disait, oui, c'est ça, Seigneur. Je vais arriver, le bec enfariné, en disant, voilà, peuple de Dieu, peuple d'Israël, je m'appelle Moïse, je vais vous délivrer. Et ils vont me croire. En fait, il a dit ça à Dieu, carrément. Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Dieu a commencé à le voir le motif. Et au bout d'un moment, la Bible nous dit que Dieu s'est fâché contre Moïse, parce qu'il ne voulait plus. Et au moment où tu dis, je ne suis pas prêt, c'est là où tu es prêt. Tant que tu dis, je suis prêt, Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Et souvent, les gens font une erreur là-dessus. Ils sont prêts à foncer avec leur chair et ils se retrouvent par terre. Quand tu es prêt selon la chair, ça veut dire que tu n'es pas prêt selon Dieu. Le jour où tu dis vraiment, Seigneur, tu sais, là, je ne veux pas. Et Dieu te dit, si, il faut que tu y ailles. Là, tu es prêt. Là, tu es prêt. Il y a une chose qu'il faut que vous appreniez dans votre vie. C'est que vos plans, vos façons de faire, ça va payer tout de suite. Mais ça va vous coûter plus tard. Écoutez bien ce que je vous dis. Vos plans vont payer tout de suite, mais ça va vous coûter plus tard. Les plans de Dieu, ah, ça va vous coûter tout de suite. Ça va vous coûter de faire les plans de Dieu. De faire la volonté de Dieu, ça va vous coûter, je tiens à vous le dire. Il y a un prix à payer. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça va payer plus tard. Et ça paye, tôt ou tard, ça paye. Tôt ou tard, quand vous faites ce que le Seigneur vous demande, vous en avez une rétribution. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps. La plupart du temps, les gens ne veulent pas. Ce que les gens veulent, c'est faire quelque chose et directement voir Dieu agir et les amener dans la dimension dans laquelle Dieu leur a parlé. Ça marche pas comme ça. Dieu va être obligé de tester ton caractère, va être obligé de tester ta foi, va être obligé de tester tes valeurs, va être obligé de tester ton obéissance, va être obligé de tester ta sainteté. Donc Dieu va être obligé de te tester dans tous les domaines. Et si tu commences à vouloir réaliser les choses par toi-même, de faire tes propres plans et dire, Seigneur, moi, je veux faire les choses la façon dont je pense qu'il faudrait que ce soit fait, eh bien, tu te trompes. Tu n'arriveras jamais à réaliser ta destinée. Tu vas te retrouver des années et des années plus tard, comment ? Tu vas te retrouver dans un système où tu te seras créé toi-même ton monde et tu auras essayé de faire rentrer Dieu dans ta boîte. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Je ne parlerai pas des serviteurs de Dieu, il y en a plein aussi, qui créent leur propre boîte et qui essayent de faire rentrer Dieu dans leur boîte. Mais ça ne marche pas. Et ils se demandent pourquoi ils ne sont pas bénis. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ? Alors ils sont là, après ils vont jalouser les autres, après ils vont faire des histoires à droite et à gauche, après ils tombent dans des trucs bizarres, etc. etc. Mais ce n'est pas étonnant. Parce que quand tu n'es pas au centre de la volonté de Dieu et quand tu n'as pas discerné les temps et les moments de Dieu, tu n'arriveras à rien. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.